Et il est 19h21.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
Bien sûr, et heureusement, il s'est passé des choses depuis AZF, depuis 20 ans, donc sur les dispositifs de prévention, sur la réduction des risques. Il y a ce qu'on appelle la loi Bachelot, on en parlera si vous le souhaitez. Mais Lubrizol, il y a tout juste 2 ans, nous a appris combien il restait à faire, notamment en termes d'information, d'accès à l'information, sans parler de ces incidents, sans conséquences majeures, sans explosion, évidemment, mais qui existent bien. Parce que les risques d'explosion, c'est une chose, ce genre d'incident, heureusement, est très rare, mais ces 20 dernières années, il y a aussi eu 6 incidents notoires. Et pour la seule année dernière, l'année 2020, 74 incidents dans les usines classées Seveso, contenus sans dommage, bien sûr. Mais des incidents se produisent. Alors du coup, la question c'est, mais que savons-nous de ce qui se passe réellement à l'intérieur d'une usine? Est-ce qu'on sait réellement ce qu'on y fait? Quelle est la dangerosité des produits qu'on y entrepose? Est-ce que les habitants que nous sommes près de ces zones-là sont assez au courant? Le souhaitent-ils? Qu'en est-il des maires dans les communes? En cas de problème, est-ce que chacun sait quoi faire? Faut-il faire des tests de sécurité plus souvent, ne serait-ce que pour familiariser les gens avec le risque, c'est-à-dire vivre avec sans paranoïa, mais en étant certain d'être très au point en cas de danger? C'est tout cela qui nous intéresse ce soir avec nos invités. C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Le premier, c'est vous, Michael. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci beaucoup. Et encore merci pour la qualité de toutes vos émissions qu'on suit depuis très longtemps.
Vous n'avez pas de questions, Michael, alors.
En fait, c'est plus Allez-y. Un témoignage en fait, par rapport au thème de ce soir. Je connais quelqu'un qui travaille sur Donge. Donc pour le rappel géographique, Donge est entouré d'une raffinerie totale, d'usines Seveso d'engrais.
Tous nos invités font oui avec la tête, donc tout le monde est très familiarisé avec
voilà,
Donge, visiblement.
Et avec une petite particularité, c'est que la ligne de chemin de fer passe à travers la raffinerie. Donc d'un point de vue sécurité, c'était pas ce qui est mieux. Donc les travaux sont en cours, mais il y a quelques années, un incident, donc peut-être 2-3 ans, un incident en pleine nuit a eu lieu, c'est qu'il y a eu une fuite d'acide chlorhydrique qui, combinée avec de l'eau, on peut imaginer la pluie, est très nocive pour les habitants. Et ce qui s'est passé, c'est que autant la SNCF a fermé la ligne voyageurs le temps que l'incident soit résolu, autant les habitants de Donge n'ont été au courant de rien du tout, puisque toutes les écoles, les établissements scolaires ont ouvert le matin, tout le monde est parti travailler sans aucun problème. Qu'un confinement a été décrété à midi alors que l'incident a eu lieu en pleine nuit vers 3h du matin. Donc les établissements publics ont été confinés entre midi et midi et quart, on va dire un quart d'heure. Mmh. L'établissement privé n'a pas confiné. Et par contre, la sirène ou l'avertissement que la mairie a dans son plan de prévention des risques n'a pas fonctionné du tout, puisque personne n'a été prévenu. Et par contre, ça n'a pas empêché la préfecture de passer un mot dans le quotidien local, le Ouest France, pour ne pas le citer, disant qu'ils avaient confiné les écoles pendant de 9h à 17h30 de la journée, donc ce qui est complètement hypocrite, puisque ce n'est pas le cas. Et personne n'a été mis au courant. Donc quand est-ce que les pouvoirs publics, entre guillemets, vont réellement prendre la mesure des choses et informer la population, quoi?
Eh ben, c'est tout l'enjeu de ce téléphone sonne ce soir, Michael. Merci beaucoup d'avoir mis les choses fort bien sur la table pour répondre à toutes vos questions et à vos interrogations. Annie Thébaumondi est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue de la santé. Vous êtes directrice de recherche honoraire à l'INSERM, présidente de l'association Henri Pézera, Travail, Santé, Environnement. Et bonsoir à vous, Alban Bruno.
Bonsoir.
Vous êtes maire de Gonfreville-l'Orchais, c'est en Seine-Maritime. Vous êtes président d'Amaris, Association Nationale des Collectivités pour la Maîtrise des Risques Technologiques Majeurs. Je vous voyais faire oui avec la tête en écoutant le témoignage de Michael, Alban Bruno, parce que c'est une affaire qu'on connaît bien dans votre secteur. J'imagine que cet incident de Donge, de la naïveté de ma question, comment c'est possible?
Je pense que le témoignage que l'on vient d'avoir illustre
bien.
Approchez-vous
un tout petit peu de votre micro, si vous voulez.
Je pense que le témoignage que l'on vient d'avoir sur votre antenne illustre bien la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, il est vraiment temps que les pouvoirs publics s'approprient ces sujets et apportent des réponses à ce type d'événement.
Est-ce que ça veut dire que là, c'est un cas particulier où rien ne s'est passé comme ça devrait se passer? Je vois Anne Thébaumondi qui me fait pas du tout avec le doigt. Ou est-ce que, effectivement, c'est vraiment un cas d'école quand il y a un incident? Parce que, alors après, on va pas effrayer les gens, c'est pas forcément grave, mais le fait est qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que ça veut dire que à chaque fois, c'est la même histoire, en fait.
Écoutez, pourquoi je réagis là, c'est vrai que, malheureusement, c'est systématique. Lubrizol, l'incendie arrive en pleine nuit, il fallait absolument confiner, il fallait arrêter les transports, il fallait arrêter les halles, il fallait arrêter l'activité économique, parce que les milliers de 9000 tonnes de 200 ou 300 produits chimiques, il faut prendre le temps de savoir ce que c'est. Mmh. On ne l'a pas pris. Notre-Dame, l'incendie de Notre-Dame, 400 tonnes de plomb qui se volatilisent en poussière. On devait arrêter l'activité tout autour de Notre-Dame. On devait prévenir... Et on ne l'a pas fait. C'est-à-dire que, malheureusement, la stratégie qui est utilisée est une stratégie qui consiste à dire il n'y a pas de danger immédiat.
Alors voilà,
l'acide chlorhydrique, à Donge, l'acide chlorhydrique, c'est un cancérogène.
Mmh. Albin Bruneau, c'est quoi la chaîne, théoriquement? Parce que j'entends bien ce que nous dit Annie Thébaumoni. On a l'impression que, en gros, s'il n'y a pas une explosion spectaculaire, on ne fait rien ou pas grand-chose. Et cela dit, dans le cas de Lubrizol que vous racontez, visiblement, on aurait pu faire bien plus. Mais effectivement, tout ce qui est spectaculaire, qui est visible, qui peut faire peur aux gens, là, effectivement, il y a toute une batterie de choses qui sont déployées, pas pour des choses qui sont un peu plus diffuses. Théoriquement, la chaîne, ça devrait être quoi?
Bah, la chaîne, c'est que les autorités doivent être informées d'un événement qui se passe au sein des sites industriels.
Donc autorité, c'est il y a un problème dans un site, on appelle la préfecture immédiatement.
C'est ça, tout à fait. Les élus locaux doivent être informés.
Alors voilà, et après chaînes, vous les maires...
Il y a des chaînes qui se travaillent en fait. Et on peut considérer que d'un territoire à l'autre, on n'est pas tous au même niveau. Et ce que je souhaiterais dire, c'est que on manque certainement de culture de la sécurité au niveau national. Il y a des territoires où les choses progressent, des exercices sont réalisés, où les gens, les parties prenantes de ces questions sur les risques industriels ont l'habitude de se parler, mais il y a d'autres territoires où les réflexes sont pas au bon niveau. Et je crois que les autorités, les préfectures, les sous-préfectures ont intérêt à regarder de ce point de vue-là sur la capacité à gérer, à informer et à communiquer en direction des populations.
Est-ce que les torts sont partagés? C'est-à-dire que nous, populations, devrions même être beaucoup plus proactifs, aller chercher ce qui se passe, aller demander comment ça doit fonctionner, ou est-ce que c'est vraiment au moment où ça descend sans que les choses ne fonctionnent pas?
C'est aux autorités d'apporter de l'information.
Là-dessus, on est d'accord. Mais il faut aller la chercher aussi. Est-ce qu'on la demande et on ne l'obtient pas le plus souvent?
Par exemple,
Annie Thébaumoni.
Les deux situations que je viens d'évoquer, Lubrizol et Notre-Dame, il y a eu très très rapidement des interpellations pour savoir ce qui était en train de se passer. Et il y a une rétention d'informations qui s'est mise en place, qui est très inquiétante, parce que, en fait, pour que la population puisse ajuster son comportement à une situation de danger, je dirais que l'obligation de subir nous donne le droit de savoir. C'est Jean Rostand qui disait ça. Mm-hmm. Le droit de savoir, c'est la première chose qui devrait être absolument la priorité des autorités. La priorité, c'est que les personnes qui sont sous le vent du nuage à Rouen comprennent qu'il se passe quelque chose de grave, qu'ils ne prennent pas la voiture, qu'ils n'emmènent pas les enfants à l'école. Il y avait le temps, il y avait le temps de le faire. Pourquoi le préfet n'a-t-il pas pris ce temps pour alerter?
Qu'est-ce qu'on vous dit à vous, monsieur le maire? On va retourner au standard dans un instant. C'est n'affolez pas les foules. Est-ce que vous entendez aussi ce message descendre vers vous, les maires de l'État, jusqu'aux élus locaux?
Sur ma commune, on n'a pas cette culture. On a toujours travaillé en toute transparence avec les populations directement concernées. Et bien souvent, les populations travaillent pour certaines dans les sites concernés. Donc, je parlais d'une culture de la sécurité. Et de ce point de vue-là, il y a un gros travail à faire. Mais ça manque de portage courage politique, de volonté. On parle de sécurité industrielle, mais des exercices qui permettent aux gens de connaître le risque, de pouvoir se confiner, d'identifier des endroits pour se confiner, de maîtriser ces systèmes d'alerte, parce qu'il n'y a pas
quoi
un
faire
système d'alerte.
La sirène retentit,
voilà,
par exemple.
On a entendu la sirène ce matin en hommage aux victimes, et je rappelle que les premières victimes d'AZF, ce sont les travailleurs des sites. Et ce que je souhaiterais dire, c'est que les premiers défenseurs et les premières alertes dans les sites, ce sont les travailleurs eux-mêmes. Et il est vraiment important que, de ce point de vue-là, l'État impose des choses, notamment sur les comités d'hygiène et de sécurité, qui se voient allouer de moins en moins de moyens. Et puis, il est vraiment important aussi de regarder du côté de la sous-traitance qui pose question. Les sites à risque, on les connaît. Les problématiques, on les connaît. Donc, il faut faire en sorte que ces sites soient hyper sécurisés, et ça passe par de la formation des travailleurs, les moyens pour les travailleurs. Et puis, j'ai envie de dire, il faut absolument que les autorités se préparent à faire face à ces situations de risque. On sait bien que le risque zéro n'existe pas. Malheureusement, il y a eu des exercices, on a pu voir qu'il y avait des défaillances. Alors, en termes d'information et de communication.
On va y revenir. Je voudrais qu'on fasse un aller-retour au standard avec Xavier qui revient sur quelque chose que vous avez déjà évoqué d'ailleurs il y a une petite seconde. Bonsoir Xavier.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, bonsoir. Ben, justement, je vous appelle de Dunkerque, et le droit d'information des populations et le droit de savoir est un sujet qui me tient à cœur. Et puisque dans le Dunkerquois, on a 17 usines Seveso assez dangereuses et une centrale nucléaire, je me posais la question, il existe une CLI, une commission locale d'information pour la centrale, bon, qui a le mérite d'exister, qui fait ce qu'elle peut, et pourquoi ne crée-t-on pas, ou est-ce qu'il existe des CLI industrielles sur certains territoires qui permettraient d'associer des associations, la population? Et justement qu'on soit bien informé des risques et comment réagir face aux risques.
Merci beaucoup.
Je voulais ajouter aussi que dans une grosse agglomération comme la nôtre, avec une autoroute A16 surchargée et accidentogène, on a aussi la problématique d'informer par exemple les transporteurs routiers qui sont assez souvent de nationalité étrangère. Et comment les informer concrètement, puisqu'ils dorment dans leur camion en cas d'accident. Et par ailleurs, et j'en terminerai là, les villes élaborent des DICRIM. Alors ces DICRIM, certes, ils sont publiés, mais qui dans la population sait ce qu'est un DICRIM, où le trouver et qu'en faire?
Et comment le lire, par ailleurs? Et bien sûr, comment le lire? Merci beaucoup, Xavier, pour cette remarque. Vous interveniez à l'instant, Anita Bomoni, mais c'est important ce qu'il dit, comment le lire? Parce qu'il peut y avoir des informations, effectivement, qui sont fournies aux gens. Maintenant, si c'est quelque chose d'extrêmement technique, qui ne parle à personne, ça n'aidera pas à avoir cette culture de la sécurité, comme vous disiez tout à l'heure.
Alors, je voudrais insister sur deux choses. La première, c'est que il faudrait beaucoup plus de transparence sur les risques de ces sites industriels, de transparence par rapport à la population. On a le droit de savoir à quoi on est exposé. Les CLI dans le nucléaire font ce qu'elles peuvent, mais c'est très très insuffisant par rapport à ce qui serait nécessaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout l'amont de la catastrophe, du désastre, qu'il faudrait comprendre, parce que vous parliez de la sous-traitance. Ça fait 30 ans qu'un certain nombre de responsables politiques, administratifs, de chercheurs demandent qu'il y ait une réglementation beaucoup plus stricte sur la sous-traitance qui rende le donneur d'ordre responsable. Il était question dans la loi Bachelot que la responsabilité du donneur d'ordre, dans AZF c'est Total, soit engagée sur toute situation de risque. Or, on est dans la situation où il n'y a rien dans la loi française qui rende le donneur d'ordre responsable. Donc on a une sous-traitance des risques qui se reporte sur les travailleurs eux-mêmes. Et dans ce qui s'est passé à AZF, c'est cette situation qui a entraîné le mélange de produits incompatibles entre eux qui a généré l'explosion. Mais tout ça était prévisible en amont.
Alors, je veux pas que les gens qui nous écoutent s'imaginent que chaque usine ou Céveso ou autre est sur le point d'exploser, mais l'important, effectivement, c'est que on sache ce qui se passe à l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur et comment ça marche. Et il y a cette remarque de Xavier Albin-Bruno qui dit, il y a un certain nombre de choses qui sont faites à proximité des centrales nucléaires, en effet, et on a l'impression que, à côté de certaines usines, en revanche, pas du tout. Comme s'il y avait deux poids, deux mesures.
Non, il existe, hein, on appelle ça des comités de suivi de site, en fait, qui réunissent très régulièrement sous l'autorité du sous-préfet ou du préfet, justement, les industriels, les associations de protection de l'environnement ou des associations de riverains, les représentants du personnel de ces sites, et puis les élus locaux directement concernés, et qui font le point 3-4 fois par an, mais ça reste très institutionnel.
Chez vous, par exemple, en termes d'exercice, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on a fait des exercices déjà ? Est-ce qu'on en fait beaucoup ? Et surtout, parce que des exercices, des simulations informatiques, ça j'imagine qu'on sait faire, et que, etc. Mais au milieu desquels on implique la population ?
Alors justement, en tant que maire, je réclame très régulièrement la possibilité de réaliser des exercices, parce que la culture de la sécurité, la culture du risque, ça passe par ce type de formation. Et c'est comme ça aussi qu'on intéresse les populations sur les sujets. Alors, tous les premiers mercredis du mois, dans mon agglomération, les sirènes sonnent, on vérifie que ça fonctionne bien, etc., etc. Mais derrière tout ça, on doit pouvoir développer d'autres outils de communication et d'information et d'alerte. Et il faut bien distinguer de ce qui est du ressort de l'alerte en cas d'événement et ce qui est du ressort de l'information. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des événements ou des choses qui se passent au sein des sites qui nécessitent une information. Mmh. Pour justement la transparence, pour créer ces questions d'habitude de dialogue avec les riverains, avec les élus locaux, et des outils d'alerte. Et là, il faut que les populations soient en capacité de dire, là, c'est une alerte. Donc, il se passe quelque chose, je dois réagir et je dois avoir le bon comportement.
Alors, justement, vous faites résonner votre sirène, effectivement, une fois par mois, c'est ça?
Tous les premiers mercredis du mois, voilà. À midi,
donc, à midi,
ça sonne.
Comme ça a été le cas longtemps, y compris ici. Est-ce que les gens savent ce qu'ils doivent faire si la sirène retentit, cependant? Est-ce que ça veut dire je me confine? Et est-ce que, imaginons, cas de figure A, ça signifie qu'il faut vraiment se confiner? Donc, ce qui se passe derrière, il y a quand même tout un enchaînement. Mes enfants sont à l'école, donc je ne prends pas la voiture vraiment pour aller chercher mes enfants à l'école, c'est très compliqué. Est-ce que j'arrête les transports en commun? Mais du coup, attendez, si j'habite à l'autre bout, me confiner, c'est bien joli, mais je suis à l'autre bout par rapport à chez moi. Est-ce que quand ça sonne, on sait ce qu'il faut faire chez vous?
Alors, deux réflexes. Se mettre à l'abri et écouter la radio. Voilà ce qui est conseillé pour essayer d'avoir de l'information sur l'événement lui-même, quel type d'événement, et justement avoir des informations sur la conduite à tenir en fonction de l'événement. Et puis je rappelle qu'il ne faut surtout
la radio,
pas,
parce que je me souviens j'y étais, eu un mal fou à savoir ce qui se passait et avoir les infos qui venaient de la préfecture.
Voilà, donc vous soulevez les difficultés de capacité des autorités à gérer les crises dans de bonnes conditions, et là ça pose la question de la formation et des compétences qu'on peut y retrouver pour faire face à ces événements. Et pour que les informations, tout ça, ça doit être fluide. Et pour que ça soit fluide, il n'y a qu'un moyen, c'est l'exercice. Mais l'exercice, ça a un coût.
Oui, d'ailleurs, ça coûte... On a une idée, pardon, j'ai vu que vous vouliez intervenir, je ne vous ai pas oublié, c'est promis. Combien ça coûterait de faire un exercice chez vous, par exemple? Vous le savez,
ça a un coût en investissement.
Oui, oui.
L'investissement des parties prenantes. Un coût pour les services de secours, un coût pour les services de police qui ont beaucoup de tâches par ailleurs. Et donc, c'est ce qui freine un petit peu les autorités à organiser les choses. Et alors que c'est impérativement nécessaire. J'ai réussi à avoir un exercice là à venir, mais ça a été compliqué. C'est dans le cadre de la révision du plan de prévention, du plan particulier d'intervention. Et on devrait avoir un exercice dans mon agglomération. Je m'en réjouis, mais c'est long. Et...
Anita Beaumoni, je vous ai vu lever le doigt très poliment. Allez-y, je vous écoute.
Oui, sur ces questions d'organisation des secours, moi je voudrais attirer l'attention sur le fait que, par exemple, à Lubrizol, les pompiers n'ont pas eu les moyens minimaux pour intervenir, et ça a été pour eux une source d'angoisse supplémentaire par rapport à ce à quoi ils avaient affaire. C'est-à-dire que c'est un peu toute la chaîne. Et quand on voit que, je dirais, la préoccupation économique prévaut par rapport à à la préoccupation de sûreté, le coût est énorme. Le coût d'AZF, c'est absolument gigantesque. Le coût humain est énorme. Et puis, il y a toutes les conséquences. À AZF, il y a quelque chose qu'on ne saura jamais, mais qui est malheureusement, probablement très important, c'est tout les conséquences du risque chimique, c'est-à-dire que c'est il y avait
si ça a développé certaines maladies, cancers, etc.
mutagènes, toxiques pour la reproduction, etc. Il n'y a pas eu de suivi. C'est quelque chose qui nous a fait prendre conscience encore plus de la nécessité, chaque fois qu'il y a ce type de catastrophe, de demander le suivi. Et en fait, on ne l'a pas obtenu ni à Lubrizol ni à Notre-Dame. Et c'est même, je dirais, des femmes qui inquiètent parce qu'elles nourrissaient leur enfant, qui ont fait à leurs frais examiner leur lait maternel. Elles avaient du lait congelé avant l'incendie, elles ont fait analyser le lait après, et elles se sont rendues compte que il y avait des hydrocarbures polycycliques aromatiques, qui est un cancérogène redoutable, dans leur lait maternel après la...
Dans des quantités, cela dit, qui auraient nécessité urgence, ou est-ce qu'on parle de choses infinitésimales? Et j'ai presque envie de dire, j'allais dire peu importe, pardon, c'est pas ce que je voulais dire, mais ce que je veux dire, c'est l'important, c'est de le savoir, en fait.
Mais c'est ça, c'est que si ces femmes avaient su, il est évident que elles auraient utilisé le lait qui était congelé, essayé de trouver des solutions parce que les hydrocarbures polycycliques aromatiques sont des toxiques sans seuil. Et quand vous imaginez que ça passe dans le lait maternel, le risque est évidemment important pour la mère, mais pour l'enfant aussi.
Si on ne fait pas ce genre d'analyse au long terme, effectivement, pour comprendre ce qui peut se passer après un incident quel qu'il soit, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas autorisé, parce qu'on estime que ça n'a pas d'importance, parce que c'est un déploiement de moyens qui serait trop important pour, la raison pour laquelle on ne fait pas de long terme, en fait, sur les conséquences, quelle est-elle?
Alors, c'est vrai que là, il y a une spécificité française, malheureusement. Si je prends ce qui s'est passé après le World Trade Center à New York, j'ai des collègues en santé publique qui ont commencé immédiatement à proposer un suivi d'abord aux pompiers et aux intervenants, puis à tout l'ensemble des riverains qui avaient été concernés. Et ce suivi s'est organisé pour permettre déjà aux personnes de savoir où elles en étaient de leur état de santé. Il y a eu des troubles respiratoires, des troubles, enfin.
Mais pardon de vous le dire comme ça, Annie Thébomoni, mais est-ce qu'on peut mettre sur le même pied d'égalité et donc déployer le même genre de moyens quand on parle de l'exemple du World Trade Center, qui est effectivement l'exemple extrême, ou d'une fuite éventuelle qui nécessite, par exemple, que, comme le racontait notre auditeur tout à l'heure, on arrête la circulation des trains à Donges, par exemple.
Mais
où est-ce qu'on fixe en fait, cette...
Il y a un très gros problème dans la communication qui a été faite, aussi bien à AZF qu'à Lubrizol qu'à Notre-Dame, c'est que le terme « sans danger immédiat » est évocateur qu'il y a des effets différés. Je reprends l'histoire de l'amiante avec la toiture de Lubrizol, l'histoire du plomb à Notre-Dame. À AZF, il y avait forcément aussi de l'amiante et des substances toxiques cancérogènes. Si vous voulez, dans le cas du World Trade Center, ils se sont donné les moyens, y compris aujourd'hui, de savoir où ils en sont par rapport au cancer. Nous, on ne le saura jamais, parce qu'on ne veut pas, et ça c'est un choix politique, malheureusement, des autorités de santé en France qui ne veulent pas mettre en place des formes de suivi. On a un droit au suivi post-professionnel dans le Code de la Sécurité sociale. Ce droit n'est jamais appliqué.
Jérôme, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Jérôme. Allez-y.
Bonsoir encore. Bravo là pour toutes vos émissions. Je suis avec grand plaisir. Surtout celle-ci, du fait que j'habite Maison Lafitte, en région parisienne. J'ai découvert par hasard, il y a 2 ans, que je me trouvais à côté d'un centre Céveso, qui pour moi n'était qu'un centre de traitement des eaux. et qui se trouve être le centre aval. Donc en découvrant ça, j'ai essayé de trouver des informations, ben déjà pour savoir de quel type de centre Seveso, de site Seveso il s'agissait, parce que je suis né en 65, donc je me rappelle quand j'étais tout petit cette histoire en Italie. Et là, quelle n'a pas été ma surprise de découvrir ce que vous avez évoqué pendant près d'une demi-heure, c'est-à-dire le manque d'informations. Si on va sur le site de Centre Senaval et qu'on tape l'occurrence Seveso, il n'y a aucune réponse. On ne trouve pas grand-chose directement sur le site. Et après de nombreuses recherches, à part avoir trouvé que j'étais sur un site classé seuil haut, donc qui d'après moi doit être un petit peu dangereux quand même. En habitant à 5 km, je suis incapable de savoir effectivement ce que ça veut dire, ce que ça représente. Mmh. Et comme vous l'avez dit, que faut-il faire si jamais il se produisait quelque chose ?
Merci pour votre témoignage, Jérôme. Alban Bruno, quand on s'installe dans votre commune, jusqu'à quel périmètre dites-vous, ou enfin en tout cas, et dans les communes limitrophes, jusqu'à quel périmètre dites-vous, attention, voici cette usine, elle est là, et vous êtes concerné au cas où ?
Alors il y a deux choses. Enfin l'information, nous quand on fait de l'information sur ma commune, on la fait de manière globale à travers les outils dont on dispose. Mais c'est pas forcément le cas dans toutes les communes concernées. Après, mais il appartient quand même au maire de faire ce travail d'information et de s'appuyer sur.
Théoriquement, notre ami Jérôme, il n'aurait pas dû découvrir incidemment, en fait, par hasard, qu'il était près d'un site qui potentiellement était dangereux.
On est censé aussi s'intéresser à tout ce qui se passe autour de chez nous, mais enfin c'est moi je milite au sein de l'association avec les maires qui sont au sein de l'association pour que ce travail d'information, de communication, de dialogue avec les industriels soit permanent. Et pour mon expérience, quand est arrivée la loi Bachelot, PPRT, quand il a fallu en parler, et ben j'étais pas maire, mon prédécesseur a demandé au sous-préfet de venir faire une réunion. Et c'est pas le sous-préfet qui a proposé de faire une réunion d'information. Mmh. Et c'est une bagarre pour expliquer les choses et sensibiliser les personnes. Et cette réunion a eu du succès. Mmh. C'était parfois angoissant hein, d'apprendre des nouvelles concernant leur habitation, mais ça a permis de travailler les sujets.
Mais du coup, j'en viens, Jérôme, qui découvre effectivement. Alors, imaginons dans un cas d'école que la sirène retentisse parce qu'il y a eu une fuite, un accident ou quoi que ce soit, même effectivement dont on ne connaît pas la gravité, peut-être que ce sera rien et tant mieux, mais la sirène retentit. Comment, Jérôme, sait-il qu'il est concerné, en fait, par un éventuel confinement, etc. Comment ça marche On sait que voilà, c'est entre le point zéro, l'incident,
sirène, si
et 5, 10, 15 kilomètres, c'est quoi ?
Si on entend la sirène et qu'elle retentit en dehors du premier mercredi du mois à midi...
Certes oui, mais jusqu'à quel périmètre, en fait
À partir du moment où on l'entend, c'est qu'on est concerné. Oui. Et vaut mieux appliquer le principe de précaution et justement d'écouter la radio pour s'informer, pour avoir des informations quant à la nature de l'événement et qui est concerné.
Et si Jérôme et les autres, Anne Thébomoni, veulent s'en renseigner sur ce qu'il y a autour d'eux, s'ils découvrent par hasard, comme le dit Jérôme, qu'il y a un site, où est-ce qu'on va pour savoir de quel site il s'agit, quel est son classement Seveso ou autre d'ailleurs, etc.
C'est très très compliqué parce que la plupart du temps, c'est des informations qui sont détenues à la préfecture par les administrations comme la DREAL sur l'ensemble des sites classés. Il y a quelques bases de données, mais qui sont très lacunaires, en fait, parce que une partie des informations sont considérées confidentielles, entre guillemets, ce qui n'est absolument pas vrai. À partir du moment où les questions de santé et d'environnement sont concernées, on devrait avoir accès immédiatement à ces informations. Et je peux vous dire que, par exemple, sur Lubrizol, ça a été extrêmement difficile d'obtenir des informations précises sur les substances en cause. Mmh. Il a fallu un temps incroyable. Mmh. Et pour Notre-Dame, la même chose. On demandait qu'il puisse y avoir une cartographie évolutive. En fait, il y a eu des mesures de fait par les pouvoirs publics, mais pour y accéder, on a été obligé de saisir la commission d'accès aux documents administratifs. D'ailleurs, j'encourage ceux qui sont concernés par des sites Seveso de saisir, de demander ces informations, et s'ils ne les obtiennent pas, de saisir sans attendre la commission d'accès aux documents administratifs.
Je pense qu'il devrait pouvoir obtenir des informations auprès de sa commune, hein, parce qu'il y a des obligations d'affichage, notamment quand il y a des évolutions au sein des sites industriels pour des travaux, etc.
Vous, monsieur le maire, vous savez exactement les produits qui sont contenus dans les usines qui vous concernent. Vous le savez exactement.
Ah, j'ai pas la liste précise des produits,
mais vous savez
etc.
ce qu'il y a à l'intérieur.
On est au courant des dangers que cela représente en matière d'effet. Enfin.
Je m'interrogeais sur une chose. S'il y avait alerte et s'il s'avérait que ça devienne dangereux pour un certain nombre de gens, y compris à long terme, votre responsabilité de maire, vous, est-elle engagée? Parce qu'après tout, la responsabilité des maires est engagée dans tellement de domaines. Aujourd'hui, je me demandais si c'est contre vous qu'on pouvait aussi se retourner, alors que, pauvrette, on a bien compris que vos informations, vous les tenez d'en haut et de la préfecture et qu'il faut bien que ça redescende. Mais est-ce que, au bout du compte, votre responsabilité est engagée?
Ah bah le maire a le devoir d'alerter les populations en cas d'événement sur sa commune, mais en fonction du caractère de l'événement et enfin, la grosseur de l'événement, après c'est les autorités qui prennent les choses en main. Enfin, j'ai eu à pratiquer et à gérer parfois des événements mineurs, sans conséquences. Mais le maire était plus au fait que le préfet dans l'action.
Et en cas d'événement mineur, d'ailleurs, parce qu'on parlait tout à l'heure des torts partagés, entre guillemets, le fait qu'il faut à la fois que les infos vous reviennent, il faut que nous soyons, nous aussi, proactifs, comme Jérôme, pour voir, effectivement, savoir ce que nous avons le droit de savoir, effectivement. En cas d'incident mineur, est-ce qu'on vient vraiment vous chercher, vous, le maire, en vous demandant qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y avait, etc. Ou est-ce que, finalement, pas tant que ça, en fait. Est-ce qu'il y a une espèce de... On vit, quand on vit à côté de ce genre d'usine, c'est un peu comme quand on vit à côté d'une centrale nucléaire et qu'on ne va pas forcément chercher ses pilules d'iode, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a une espèce de routine qui s'installe, allez-y, bien sûr, et qui fait qu'on on ne s'y intéresse pas autant qu'on le devrait?
Moi, je voudrais évoquer un site industriel. Là, on est dans une situation de pollution chronique qui a duré 50 ans au centre d'Aulnay-sous-Bois, dans un quartier pavillonnaire, où il y a eu une usine d'amiante qui a donné lieu à des plaintes récurrentes des riverains pendant pratiquement toute son existence, entre 1938 et 1991. Quand une famille découvre que l'un d'entre eux est atteint d'un mésothéliome, qui est le cancer caractéristique d'une exposition à l'amiante, et que des voisins lui disent « mais il y a l'usine là » qui est en fait... la famille va mettre 4 ans à obtenir les informations sur cette usine. Ni la mairie, ni la préfecture, ni les installations classées, ni les archives départementales, dans un premier temps, ne lui donnent accès à quoi que ce soit, ne leur donnent accès à quoi que ce soit. Et à un moment donné, ils réussissent à mettre la main sur un dossier qui était aux archives départementales, et là, c'est un dossier accablant pour cette usine. Et il y a eu tout un travail associatif après, mais pratiquement, il faut aller chercher l'information, et j'encourage tous ceux qui nous écoutent à aller chercher l'information.
Et on mesure la difficulté de prouver ensuite le lien de cause à effet. C'est ça que ça dit aussi, cette très grande difficulté. Retour au standard avec Yvon. Bonsoir Yvon.
Bonsoir France Inter. Je vous remercie d'avoir pris mon intervention. Je vous appelle pour deux faits importants. Depuis 20 ans, l'État n'a pas renouvelé le personnel, les contrôleurs qui vont dans les usines. Donc il y a moins de contrôleurs, premièrement. Deuxièmement, 10 ans après Toulouse, les lois ont été durcies, ont été renforcées, et depuis quelques années, à cause ou sous pression des lobbies industriels, ces lois ont été assouplies. Donc, de fait, moins de contrôleurs et les lois assouplies. Qu'en pensez-vous?
Merci pour votre question, Yvon. Qu'en pensez-vous? Tiens, l'un après l'autre. Alban Bruno, d'abord sur les moins de contrôleurs.
Ah oui, enfin ça je confirme. Enfin, il y a vraiment un besoin dans notre pays à ce que l'on puisse contrôler ces usines qui présentent des risques, enfin ces sites à risque. Et là, pour le coup, il est vraiment nécessaire que les préfectures puissent être dotées de contrôleurs, d'inspecteurs, qui aient les moyens quotidien d'effectuer les contrôles suite à des recommandations ou des prescriptions qui sont faites auprès des industriels. Mmh. Et ça, il y a eu 50 postes qui ont été annoncés suite à la catastrophe de Lubrizol. 50 postes pour notre pays, quand on sait qu'il y a 1200 sites à risque, 650...
50 postes en plus, ça veut dire qu'il y en a combien pour l'instant ?
Ah ben, ça a été annoncé à l'issue, donc 50 postes en plus, c'est minime. Mmh. Ça permet pas, et d'autant plus, alors faut faire attention, on sait que les postes qui sont créés dans les préfectures occupent aussi d'autres fonctions, enfin voilà.
Et
on manque d'État sur ce sujet.
Et sur la suite de la question d'Yvon, Anita Bomoni, le fait que effectivement il y a eu les lois ont été plus sévères et puis subitement depuis une dizaine d'années on marche un peu dans l'autre sens.
Alors, je voudrais distinguer deux aspects. Ce qui concerne la loi Bachelot sur l'environnement, où effectivement sous couvert de simplification administrative, on a levé un certain nombre d'obligations pour les industriels. Et puis, ce qui s'est passé pour le Code du travail, parce que je rejoins complètement ce que vous disiez sur le fait que les travailleurs sont les premiers concernés, c'est les premiers à pouvoir faire de la prévention. Mmh. Or, depuis une dizaine d'années, on a supprimé un certain nombre de réglementations par rapport à la traçabilité des risques, et on a supprimé les comités d'hygiène et de sécurité conditions de travail, et ça, c'est absolument catastrophique du point de vue de la sécurité.
Il nous reste très peu de temps, mais on a le temps pour votre question, Hélène, bonsoir, soyez la bienvenue.
Bonsoir, merci pour la qualité des interventions. Je témoigne en tant que participante, entre guillemets, à un incident industriel en juillet 2020, sans incident. Ma surprise a été que le moyen de communication auprès de la mairie, de la préfecture, donc des autorités, dans le cadre officiel des pompiers, était le fax. Donc quand j'entends effectivement monsieur le maire dire qu'il y a un sujet d'information que je participe, quand un maire d'une petite commune, puisqu'on est dans une petite commune, voit débouler 5 camions de pompiers, les pompiers pensaient qu'on était classé Céveso. Mmh. C'est pas le cas. Il y avait une erreur de classification au départ. Et qu'on me dit, il faut déclencher en tant que cadre le plan d'opération interne, donc le POI, par fax. Mmh. Je me dis, mais la mairie, le dimanche, en juillet,
ouais, personne ne va
pourra pas informer la population.
Évidemment.
Et il n'y avait pas de risque pour la population, heureusement.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Hélène. Alors effectivement, sans dommage, et tant mieux, mais ça dit beaucoup de choses, Alban Bruno.
Bah, ça illustre bien la diversité au sein des territoires et des problématiques, comment elles sont gérées. Et d'un endroit à l'autre, on va avoir des situations complètement différentes de ce point de vue-là.
Effectivement, une commune suffisamment grande, quelqu'un sera prévenu, et puis la commune d'à côté où le maire n'est pas là parce qu'on est dimanche.
Sur ma commune, il se passe quelque chose, il y a des dispositifs d'astreinte, tout de suite j'ai le coup de fil du cadre, enfin, ça se passe différemment qu'avec le fax, et dans bien d'autres communes certainement aussi.
J'espère qu'on n'a pas effrayé tout le monde ce soir, mais c'est important. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette soirée, c'est informez-vous, en fait, sur ce qu'il y a autour de vous. Réellement, vous avez le droit de le faire. Vous êtes vraiment invité à le faire, ce qui ne fera pas exploser des choses dangereuses. Ça fera juste que vous saurez exactement ce qu'il y a autour de vous.
L'appropriation citoyenne est toujours la meilleure des réponses.
Exactement. L'appropriation citoyenne, comme vous dites. Je vous remercie beaucoup de votre présence ce soir. Merci à tous pour vos très nombreuses questions. Et portez-vous bien.